du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher monsieur le prêtre, cher monsieur le Pivert, chers pères, chers amis, encore un grand privilège de pouvoir dire quelques mots à l'occasion de la première messe célébrée par le nouveau prêtre. Une belle occasion, et nous félicitons tous, en particulier la famille de frère Denis du Sacré-Cœur, et nous le félicitons toute la famille. Nous félicitons aussi tous ceux qui viennent de loin pour participer à ces cérémonies de l'arrivée de l'ordination d'un nouveau prêtre. Comme dit hier, c'est bien une occasion de joie parce que c'est quelque chose pour le bien commun de toute l'Église. Un vrai prêtre ajouté au nombre des prêtres. L'Église ne consiste que d'un certain nombre de prêtres pour la mener et pour mener les fidèles au ciel. Les circonstances sont difficiles pour un nouveau prêtre, mais je crois que le frère Denis est bien à même d'affronter ces circonstances parce que dans son parcours assez accidenté vers le sacerdoce, il n'y arrive que dans ces années 50, vocation tardive. À travers ce monde d'aujourd'hui, cette église d'aujourd'hui, il a gardé la foi. Il a passé, si je ne me trompe, 2 ans dans un séminaire de prêtres modernistes et n'y a pas perdu la foi. Il y a gardé la tête et a fini par en sortir parce qu'il savait que ce n'était pas cela. Eh bien, s'il est passé par une telle expérience et en est sorti indemne, c'est que humainement, on devine qu'il saura tenir tête à beaucoup de tentations et d'illusions qui sévissent dans l'Église d'aujourd'hui. Mais pas plus que M. l'abbé Pivert lui-même, il ne perdra pas la tête, on se doute, en crachant par exemple sur tous les catholiques de l'Église, disons, rénovée, de l'Église officielle, de l'Église mainstream, comme on dirait en anglais. Il sait qu'il y a de la bonne volonté dans les égarés de cette Église rénovée. Il y a de la sincérité et de la bonne volonté, parce que pas tous les brebis ne sont aussi corrompus que les pires de ceux qui conduisent cette Église faussée. Il y a un petit noyau de criminels, d'apostats, au sens plénier des mots, qui savent parfaitement ce qu'ils font pour détruire l'Église, mais c'est loin de là que tous les membres, tous les brebis soient aussi pourris, loin de là. Il y en a encore, au niveau des fidèles en particulier, des prêtres et même de quelques évêques sans doute, quelques-uns. Il y a des catholiques croyants, sincèrement croyants, et qui ne veulent pas perdre Dieu. Et de cela, toujours il est possible qu'ils conviennent vers l'Église, disons, de la tradition, qui est assez large, qui a plusieurs secteurs si on veut, parce que le bon Dieu s'occupe de toutes ces âmes qui le veulent et qui le cherchent et qui ne veulent pas le perdre. Et donc certains trouveront ce pasteur-ci dans la tradition, cet autre pasteur pour les mener, pour correspondre à leurs besoins. Et comme cela, ils survivent, ils gardent la foi. Mais le fait que sans autorité officielle, descendant du pape, dont les catholiques ont éperdument besoin, c'est comme cela qu'a fait notre Église, avec pape et pas sans pape. Alors lorsque le pape régnant, ou au moins apparemment régnant, lorsqu'il a perdu le bon chemin, il est très difficile que l'autorité de Dieu passe par le pape, ne passons pas par la pape. Cette autorité doit descendre de façon fragmentée et dispersée, ce qui ne facilite pas les choses pour les brebis. Alors, il y a deux choses à recommander que le nouveau prêtre comprendra très bien, aura déjà très bien comprise, et c'est le besoin de la confiance en Dieu et la compassion envers ses semblables, et dans la prêtrise et au niveau des fidèles. La confiance en Dieu. Si on lit l'Ancien Testament, si on connaît un peu l'Ancien Testament, l'histoire du peuple élu de l'Ancien Testament, on voit exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Le peuple de Dieu, qui est dès la mort en croix de notre Seigneur Jésus-Christ, les catholiques dispersés et les catholiques apostats à la tête du peuple élu, du nouveau peuple élu, mais comme dans l'ancien peuple élu, des chefs qui trahissent et les brebis qui sont dispersées. Et c'est ce que nous voyons, nous observons aujourd'hui. Mais ce n'est pas Dieu qui est responsable de cette division, de ce manque d'unité, de cette dispersion des brebis. Il est le pasteur suprême. Il n'a pas voulu une telle dispersion, mais il donne le libre arbitre à ses serviteurs, les serviteurs que lui-même a choisis ou a permis aux hommes de choisir à la tête de son Église. Il leur a donné le libre arbitre pour que, comme chef de l'Église, il mérite ou démérite, le cas échéant. En tout cas, il ne leur enlève pas le libre arbitre qu'il leur a donné, comme à tous les hommes, et donc à ses chefs de frayer leur propre chemin, de faire leur propre choix, de prendre leur propre responsabilité. Ils n'ont aucune liberté de refaire l'Église, ils n'ont aucun droit, liberté, droit de refaire l'Église. Ils ont la liberté, devoir de bien mener l'Église et bien mener les brebis vers le paradis. Donc, confiance en Dieu. On ne confie pas nécessairement en les hommes. Les hommes sont toujours les hommes. Nous sommes tous faillibles. Il y a toujours le Saint-Esprit à l'œuvre pour nous éclairer et pour nous guider, mais nous ne voulons pas toujours avoir recours à lui. Nous voulons faire notre propre cuisine, si j'ose dire. Et donc, c'est là où les hommes d'Église peuvent tomber, là où on peut bien, comme Dieu, notre Seigneur, nous a avertis de le faire, nous devons nous méfier de loups sous peau de brebis. C'est toujours une possibilité, c'est notre Seigneur qui le dit, c'est Paul qui raconte aussi dans l'histoire de sa vie, les faux frères, apparemment dans la foi, mais pas réellement. Ah là là, il faut discerner, et le bon Dieu veut que nous discernions tous les jours, mais en lui une confiance absolue. Autant nous pouvons nous méfier des hommes, autant nous devons nous confier complètement en la bonté et l'amour et la sagesse, la providence de Dieu. En particulier dans ces temps qui viennent, qui risquent d'être mouvementés, et même de nous faire peur, mais comme dit M. l'Abbé Pivert, il ne faut rien craindre. Il ne faut craindre rien, et c'est très juste. C'est-à-dire que nous avons la foi, et si je meurs aujourd'hui ou en 30 ans, qu'est-ce que ça fait si seulement je meurs en état de grâce? C'est l'état de grâce qu'il faut poursuivre, et pas la peur des ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu sont forts. Ils sont devenus forts par une juste permission de Dieu, mais Dieu en reste le maître parfait et total, et aucun de ses ennemis ne peut lever même le petit doigt sans l'action de Dieu pour le lui permettre. Donc, confiance en Dieu. Il sait ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est apparemment la ruine de l'Occident, c'est apparemment la victoire de ses ennemis apparents, mais pas réels. J'ai dit l'autre jour, par exemple, que les Russes ont été les ennemis de Dieu sous le pouvoir des communistes jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Mais à partir de là, quand les communistes n'étaient plus au pouvoir dans la Russie, c'est la Sainte Russie qui a commencé à se réaffirmer. Sainte Russie, expression due au caractère profondément religieux du peuple russe. Et si les Russes se sont adonnés à tel point au communisme pour en être les grands répandeurs dans le monde entier, c'est parce qu'ils en ont fait leur religion de remplacement pour la religion chrétienne orthodoxe. Encore une punition par le bon Dieu, une punition sans doute juste de l'Église orthodoxe. Les hommes d'Église n'ont pas le droit de faire comme ils veulent, comme ils entendent. Ils ont le devoir d'accomplir la volonté de Dieu et de s'occuper en premier, en deuxième, en troisième et en dernier de la volonté de Dieu. Dieu, premier, servi. La Russie, donc, a reconstruit 2000 églises détruites par les communistes et parmi celles-là, quelques-unes des plus importantes à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Et donc, la Russie, en gros, à cause de leur souffrance, revient à Dieu. Ce n'est pas encore parfait, loin de là. Il faut que la consécration catholique par le pape catholique et les évêques catholiques soit faite pour que ce retour à Dieu des Russes se complète. Mais c'est en voie. On peut bien penser que ce retour complet est en voie. Par contre, les Américains, qui ont été un peuple religieux protestant, en grande partie protestant, ils ont été pieux. C'est un Français visiteur des États-Unis au 19e siècle qui a observé que la force du peuple américain, du jeune peuple américain, du peuple de cette jeune nation, était pieuse, avec une piété protestante. Il aurait conclu à ce moment-là déjà que la force de cette jeune nation, c'était sa piété, et quand elle perdrait sa piété, elle tomberait. Et c'est exactement ce que nous observons maintenant aux États-Unis. Ils ont laissé aux libéraux de prendre le pouvoir. Les libéraux ont toujours libéré en adoration de leur religion de remplacement, la liberté. Et par là, ils ont perdu leur caractère religieux et ils se laissent corrompre, même en pensant faire du bien parce que c'est la liberté, la liberté, la liberté. Autrement dit, les Américains du 19e siècle, un peuple pieux, mettons au 20e et au 21e siècle, est devenu un peuple en grande partie impie, athée, matérialiste. Donc ils ne sont plus, c'est plus les Américains bons et les Russes mauvais, c'est plutôt les Russes bons. Maintenant, si on observe bien, les Russes bons et les Américains mauvais. Et c'est par là que l'on peut penser que le chef des Russes, le chef actuel des Russes, veut se faire ami de Dieu et veut combattre les ennemis de Dieu, qu'il sait reconnaître derrière les manœuvres en Ukraine et tout cela. Donc la guerre là est essentiellement une guerre des avec Dieu contre les contre Dieu. C'est une guerre religieuse, comme dans le fond sont la presque totalité des guerres des hommes, parce que les hommes ne voudront guère donner leur sang pour autre chose que des intérêts de religion, les plus importants. Donc, sachons voir ce qui est de Dieu derrière les apparences assez sans Dieu, et nous verrons que le bon Dieu est à l'œuvre. Il fait maintenant vaincre militairement, politiquement, militairement, pas politiquement, mais militairement, il fait vaincre. Il fait les Russes vaincre. Et Dieu sait où ils vont s'en arrêter, car ces guerres, la guerre, dit Saint Jacques dans l'Écriture sainte, c'est la punition des péchés. Et donc, notre monde est tout à fait entre les mains de Dieu. Ayons-nous confiance en Dieu, et peu importe si nous périssons, si nous mourons, si nous devons souffrir, que quoi que le bon Dieu veuille nous envoyer, soyons certains que c'est dans notre propre, c'est dans notre vrai intérêt propre, et que c'est pour notre salut et pour la qualité de notre salut qu'il permet tous ces accidents et misères qui risquent de suivre. Mais n'ayons pas peur, ne craignons rien. Confiance en Dieu. Et du même coup, et pour le prêtre, la compassion envers les brebis. Et là, je crois que M. l'abbé Pierre donne l'exemple d'être ouvert aux brebis du Nouvel Ordre, aux musulmans, à toutes les âmes. Il reconnaît toutes les âmes et veut faire ce qu'il peut dans ses limites pour ces âmes. Et le frère Denis fera pareil. Il aura un ministère quelque part, probablement, il n'a pas nécessairement le ministère du volant, qui sait, il sera peut-être plus stable que cela, qui sait, le temps le dira. En tout cas, il aura à s'occuper de beaucoup de bonnes âmes et de mauvaises âmes. Il devra distinguer entre les âmes que le Saint-Esprit n'attire pas, au moins pour le moment, mais là, c'est toujours une âme immortelle et une âme que Dieu veut au paradis. Donc, il ne faut pas, au moins, ne pas les aliéner. Et ça, c'est beaucoup. Et encore reconnaître les âmes que Dieu nous envoie ou envoie, que Dieu choisit et envoie vers la vraie Église, vers les âmes qui cherchent vraiment Dieu et dont il faut s'occuper pour les aider avec tous les moyens surnaturels qui sont à la disposition du prêtre. Et c'est au prêtre qu'il faut qu'on s'approche, au prêtre du Christ, qu'il faut s'approcher pour trouver le Christ et pour faire la volonté du Christ. Sans le Christ, on ne fera pas la volonté de Dieu. On ne peut pas, si on veut le vrai Dieu, on ne peut pas contourner notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu. Homme aussi, et cela, c'est cela qui peut tromper ceux qui ne veulent pas toute la vérité entière. Il est homme, pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, Dieu de Dieu, la lumière de la lumière, Dieu vrai de Dieu vrai. Il est l'égal du Père, l'égal du Saint-Esprit. Il est toujours dans le sein de la Sainte Trinité, et c'est par là qu'il faut, c'est par lui qu'il faut accéder à Dieu. Et le grand avantage, la grande œuvre du nouveau prêtre, c'est d'être le représentant que le Christ veut qu'il soit, représentant de lui le Christ. C'est ainsi qu'à l'autel, en célébrant la messe, tout prêtre ne dit pas « Ceci est son corps », voulant dire « Ceci est le corps du Christ ». Il doit dire, le prêtre doit dire, pour que la consécration soit valide, il doit dire « Ceci est mon corps ». Autrement dit, le prêtre parle complètement au moment de célébrer la consécration, la partie la plus importante, le moment le plus important de toute la messe. « Ceci est mon corps », il dit, pour affirmer qu'il n'agit qu'en représentant du Christ. Voilà, le représentant du Christ parmi nous, le représentant de Dieu. Qui irait se confesser dans le confessionnal s'il pensait ou s'il croyait que ce n'était qu'un homme qui allait entendre sa confession? On va se confesser parce qu'on a la foi. Par la grâce de Dieu, on a la foi que le prêtre derrière l'écran n'est que le représentant du Christ. Et c'est pour cela que, encore une fois, le prêtre ne dit pas « Il vous absout de vos péchés », il dit « Je vous absous de vos péchés ». Parlant encore entièrement en la personne du Christ. Ah, le prêtre, qu'est-ce qu'il est? Et le Saint-Curé d'Ars de dire Si nous voyons l'âme d'un prêtre en état de grâce, ce n'est pas ses paroles mêmes, mais c'est sa pensée. Si nous pouvions voir l'âme d'un prêtre en état de grâce, nous tomberions ou nous mourrions, je dis, de joie. De joie à voir ce que Dieu nous donne dans le prêtre et ce qu'est le prêtre fidèle s'il le veut. Et il faut, mes chers amis, prier beaucoup aussi pour les prêtres infidèles. Parce que dans la crise qui vient, ils risquent, les prêtres de la dite résistance, la dite fidélité, on est peu nombreux, très peu nombreux. On a peut-être, Dieu aidant, la plénitude de la vérité. On ne veut pas trahir le dogme, la doctrine de l'Église, dans aucune mesure. Donc nous voulons être fidèles, si Dieu le donne, nous sommes fidèles, mais nous sommes très peu nombreux. Mais il y a beaucoup de prêtres dont l'ordination nouvelle, selon le nouveau rite, n'est pas nécessairement invalide. Invalide des fois, invalide même de plus en plus, peut-être. Mais invalide toujours, c'est faux. Car les miracles eucharistiques, le bon Dieu se donne la peine d'opérer encore dans la nouvelle Église avec de nouveaux prêtres, sacrés par de nouveaux évêques, sacrés avec le nouveau sacre des évêques. Ces hosties, ce sont ces hosties qui sont miraculeuses. Autrement dit, il est certain, par l'évidence de ces miracles, que pas toutes les messes nouvelles sont invalides, pas tous les nouveaux prêtres sont invalides, pas tous les nouveaux évêques sont invalides. Les francs-maçons ont voulu, en attaquant en particulier le rite du sacre des évêques, rendre invalide l'Église à la longue. En invalidant les évêques, on invalidera les prêtres, on invalidera les messes, on fera tomber toute l'Église. C'est cela qu'ils espéraient et c'est ça qu'ils entendaient faire. Mais il y a un Dieu. C'est ça qu'ils oublient, les pauvres francs-maçons. Et donc, c'est lui qu'ils bravent, les pauvres, encore plus pauvres. Si consciemment ils veulent le braver en détruisant son Église, en tout cas, ils entendaient détruire l'Église. Mais j'ai dit l'autre jour, je pense, que votre présence ici, venant de loin en France et même de l'étranger, en particulier de l'Irlande, une bande de jeunes qui servent à l'auteur d'Irlande, votre présence ici est la preuve que le bon Dieu n'est pas à court de moyens pour s'occuper de son Église. Et son Église continue, dispersée, je veux bien, dispersée de divers côtés, je veux bien, dispersée entre des prêtres qui, des fois et d'autres, se chamaillent entre eux, je veux bien. C'est pas là le problème pour le bon Dieu. Le bon Dieu s'en occupe, il guide son Église et il la préserve. Vous êtes la preuve. Alors, mes chers amis, beaucoup de compassion envers ces brebis dispersées, de notre part et de la part, sans aucun doute, du nouveau prêtre. On va être comme le Seigneur le veut, comme le Seigneur l'aurait été lui-même s'il était là. Une ouverture à toutes les âmes, très rarement, très difficilement, une condamnation pour le bien d'une âme. C'était l'excommunication dans l'Église saine avant le Concile. L'Église devait excommunier quelques âmes, pas beaucoup, et c'était une mesure très à contre-volonté, si on peut dire, mais nécessaire par la méchanceté des hommes. Il y a parmi nous qui sont méchants, et nous sommes tous capables, de par notre péché originel, d'une méchanceté que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas quel péché, c'est Saint-Thérèse de Lisieux qui le dit aussi. Elle dit, la différence entre moi et un grand pécheur, c'est quand dans mon cas, le bon Dieu est intervenu avant que je pêche, pour m'empêcher de pécher, tandis que dans le cas d'un grand pécheur, il n'a pas intervenu. Mais il peut intervenir toujours jusqu'au moment de la mort. Une grande compassion, mes chers amis, pour les pauvres égarés, de toutes sortes. Et le bon Dieu compte sur nous, suivant un prêtre, suivant un bon prêtre. Il compte sur vous pour être les contacts dans le monde avec toutes ces pauvres âmes. Très souvent, on ne peut pas y faire beaucoup, beaucoup. C'est d'accord. Très souvent, le langage des choses de Dieu ne se comprend pas, et c'est comme si on parlait grec. Ça ne passe pas. Mais ce qu'on peut faire, en tout cas, c'est quand même, on peut prier, on peut donner le bon exemple, et on peut pratiquer la charité. La charité, la vraie charité, pour une âme qui est en danger d'enfer, mais qui a été faite pour le paradis, la vraie charité, c'est de leur vouloir le salut. Et avec discrétion et intelligence, chercher les moyens d'atteindre ces âmes. Voilà, mon frère, votre grande œuvre, la grande mission devant vous. Je suis sûr que vous en êtes capable et que c'est à la lumière de ces vérités qui ne sont pas les miennes. Ces vérités n'appartiennent pas à moi. C'est pas moi qui ai inventé l'Église. Pas du tout. J'ai reçu l'Église, j'essaie, comme Monseigneur le fait, de la transmettre fidèlement. C'est ma responsabilité, c'est mon devoir, mais que voulez-vous? On est ce qu'on est et on peut commettre des péchés qu'on ne rêve même pas. Des péchés de cauchemar pour moi-même. J'en suis capable, que je n'en doute pas. Et donc, méfions-nous de nous-mêmes. Confiance en Dieu et compassion envers le voisin. On dit en français, si tu veux être heureux 3 heures, soule-toi. Si tu veux être heureux 3 mois, marie-toi. Si tu veux être heureux toute ta vie, fais-toi prêtre. C'est la publicité pour les vocations. Mais ce n'est pas faux. Le frère a devant lui, s'il ne l'a pas eu déjà, parce qu'il a voulu Dieu. Il a devant lui des années heureuses, en vous servant, en nous servant, en nous aidant à arriver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.